si vous deviez vivre caché du reste du monde pour le restant de vos jours, quel endroit sur Terre choisiriez-vous ?
Ces hommes voyaient la possibilité de s'établir au milieu de l'abondance, dans la plus belle île de l'univers, où ils seraient exempts de travail, où les attraits de la dissipation et des plaisirs surpassent tout ce qu'on peut imaginer.
Voici ce qu'écrit le capitaine Bligh au sujet des mutins qui se sont emparés de son navire, le Bounty. Dans un précédent épisode, je vous ai raconté comment, en avril 1789, des marins de ce vaisseau de la couronne britannique s'étaient révoltés contre leur commandant William Bligh. À la tête des mutinés, Fletcher Christian avait pris le contrôle du trois-mâts et abandonné le capitaine avec 18 de ses hommes sur une minuscule chaloupe en plein Pacifique.
Au nom du ciel, monsieur Christian, réfléchissez à ce que vous faites.
Vous savez bien que vous m'avez traité comme un chien durant tout le voyage. Depuis ces 15 derniers jours, ma vie a été un enfer et je suis décidé à ne plus le supporter.
En commettant l'acte le plus grave que des marins puissent commettre sur un bateau à l'époque, les révoltés du Bounty s'étaient condamnés à vivre en exil pour le restant de leurs jours. Christian se croyait en enfer sous le commandement du capitaine Bligh. Le voilà en quête d'un paradis, une petite île perdue qui le mettra lui et ses complices à l'abri des foudres de la justice britannique. C'est cette histoire vraie de survie que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet et je vous emmène au cœur du Pacifique, dans le sillage de ces mutins en cavale, bien décidés à sauver leur peau, in extremis. Avril 1789. Dans la chaloupe surchargée où il a été contraint d'embarquer avec 18 marins qui lui sont restés fidèles, le capitaine Bligh n'a plus de voix après avoir hurlé en vain sur les mutins pour les ramener à la raison. La mare qui reliait la petite embarcation au navire vient d'être rompue.
Après m'avoir fait subir 1000 plaisanteries et m'avoir gardé ainsi quelque temps pour leur servir de jouet, ces indignes rebelles nous laissèrent enfin aller en dérive sur le grand océan.
Après ce geste irréparable, les matelots rebelles savent qu'ils ne pourront jamais rentrer en Angleterre. À l'époque, les cours martiales ne connaissent qu'une peine pour les auteurs de mutinerie, la mort. Pour y échapper, Fletcher Christian et ses complices vont devoir trouver une terre reculée où aucun bateau de la Royal Navy ne viendra les chercher.
La barre dessous.
Les 25 hommes restés à bord du Bounty ne constituent pas un groupe homogène. Il y a le noyau dur des mutinés, composé d'une dizaine de marins, mais aussi des membres de l'équipage qui n'ont pas pris part activement à la mutinerie. Ils ont préféré rester sur le navire plutôt que d'embarquer sur la chaloupe avec le capitaine. Et puis, souvenez-vous, il y a aussi quelques hommes qui ont été retenus contre leur gré sur le bateau. Ils voulaient suivre le commandant Bligh, mais Fletcher Christian les a obligés à rester, jugeant qu'il aurait besoin de leurs compétences. C'est le cas de l'armurier Joseph Coleman et de deux aides du charpentier, Charles Norman et Thomas McIntosh.
N'ayez pas peur, les gars. Je vous rendrai justice si jamais je retourne en Angleterre.
Pour l'heure, qu'il l'ait voulu ou non, tous ces hommes se retrouvent sous l'autorité de l'ancien second, Fletcher Christian, sur un navire désormais hors la loi. La mission première du Bounty, qui était, je le rappelle, de transporter 1 millier de plants d'arbres à pin de Tahiti jusqu'aux colonies des Antilles britanniques, n'est évidemment plus à l'ordre du jour.
Monsieur Christian étant maître du navire, il donna l'ordre de jeter tous les plants à la mer, afin de débarrasser la cabine, ce qui fut terminé le 1er ou le 2 mai. Monsieur Christian prit possession de la cabine de Monsieur Bligh.
À en croire le journal de Jack Morrison, le second maître d'équipage toujours à bord mais qui prétendra ne pas avoir pris part à la mutinerie, après l'euphorie de la révolte, une ambiance pesante s'installe sur le navire. Christian et ses complices se méfient des autres membres de l'équipage.
Monsieur Christian plaça le coffre à armes dans sa cabine, prenant les clés à Coleman pour les donner à Churchill, qui installa son lit sur le coffre. Chaque homme de M. Christian fut armé d'une paire de pistolets. Monsieur Christian lui-même ne se déplaçait jamais sans un pistolet dans sa poche. Le même que Monsieur Bly utilisait auparavant. Sa bande exerçait une étroite surveillance. Chacun prenant soin de faire le troisième dès qu'il voyait deux hommes en conversation.
La première idée de Christian est de mettre le cap vers Toubouaï, une petite île située loin des routes maritimes à environ 800 km au sud de Tahiti. Elle a été découverte par le capitaine Cook il y a 12 ans, mais elle est restée vierge de toute présence européenne. Il reste à espérer que ses habitants se montreront accueillants.
Monsieur Christian fit découper dans les vieilles bonnettes des uniformes pour tout l'équipage et utilisa le sien comme parement. Rien n'avait plus d'effet sur l'esprit des Indiens, faisait-il observer, qu'un uniforme.
Christian espère sûrement aussi que ces uniformes de fortune contribueront à maintenir une certaine discipline et le respect de la nouvelle hiérarchie à bord du navire. Le 28 mai 1789, soit un mois après la mutinerie, le Bounty atteint l'île de Toubouaï. Les premières tentatives de discussion avec les habitants tournent court. Les autochtones finissent par attaquer les Anglais. Ces derniers répondent aux jets de pierre par des tirs de pistolet. Une dizaine d'insulaires sont tués. Effrayés, les autres s'enfuient et partent se cacher dans l'intérieur des terres. Les marins en profitent pour mettre un pied sur l'île et explorer la côte. Contre toute attente, l'affrontement sanglant qui vient d'avoir lieu ne dissuade pas Fletcher Christian de s'installer sur Toubouaï.
Monsieur Christian décida d'y revenir dès qu'il aurait pu se procurer un stock de cochons, de chèvres et de poulets, qui semblaient ne pas exister sur cette île, pourtant bien fournie en arbres à pin, cocotiers et bananiers. Il était d'autant plus tenté que l'île avait à peine 18 000 de tour et qu'elle comptait apparemment peu d'habitants, dont il espérait s'assurer l'amitié, par force ou par persuasion.
Un pari aussi optimiste que risqué, après avoir tué une dizaine d'habitants. Le Bounty met le cap sur Tahiti pour aller y chercher le bétail qui lui permettra de s'implanter durablement sur Toubouaï. Le 6 juin, les Tahitiens qui avaient fait leurs adieux au Bounty et à son équipage deux mois plus tôt voit revenir avec étonnement le navire britannique. Pour conserver l'amitié des chefs locaux, Fletcher Christian se garde bien de leur révéler qu'il s'est mis hors la loi en se révoltant contre son capitaine. Il préfère raconter qu'ils ont rencontré en chemin le commandant Cook, qui a pris à son bord le capitaine Bly et les plans d'arbres à pin. Christian, lui, a reçu l'ordre d'établir avec la moitié de l'équipage une nouvelle colonie au nom du roi George en Nouvelle-Hollande, l'actuelle Australie. C'est pour cette raison qu'il revient chercher du bétail. Le stratagème fonctionne à merveille. L'évocation du nom de Cook, en réalité mort déjà depuis 10 ans, et surtout la perspective de faire de nouvelles affaires, suffisent à convaincre les Tahitiens de ne pas poser davantage de questions. Le troc peut commencer, ou plutôt recommencer. Morrison raconte.
Churchill et moi-même fûmes envoyés à terre pour acheter des cochons, des chèvres. Les demandes en objets de métal crurent à tel point que l'armurier, bien que travaillant sans relâche, ne pouvait y suffire. Et cela, malgré un stock qui n'avait pas été utilisé lors de notre précédent séjour.
10 jours plus tard, le Bounty repart avec à son bord 460 cochons, 50 chèvres, quantité de poulets, quelques chiens et un chat. Évidemment, les marins n'ont révélé à personne leur véritable destination. C'est dans le plus grand secret qu'ils regagnent l'île de Toubouaï. Mais l'installation sur ce petit morceau de terre, isolé des routes commerciales, va se révéler moins simple que ne l'avait imaginé Christian. Pendant les 2 premiers mois, le chef des mutins tente avec difficulté de nouer des alliances avec les différents chefs locaux. Mais Christian se révèle être un piètre diplomate. Sa venue suscite rivalité et conflit. Pour se protéger, les Anglais entreprennent l'édification d'un fort autour duquel un profond fossé est creusé. Avec une certaine ironie, les marins hors la loi baptisent leur camp fortifié Fort George, en référence au roi de Grande-Bretagne et d'Irlande.
De forme quadrangulaire, il avait 100 mètres de côté. L'épaisseur des murs était de 6 mètres à la base et 4 mètres au sommet. Un pont-levis faisait face à la plage. Les canons du navire devaient être installés sur les remparts.
Le chantier avance malgré des altercations récurrentes avec les autochtones. Fletcher Christian doit aussi faire face à des dissensions au sein de son propre clan. Son autorité est mise à mal. Au fil des semaines, ses soutiens sont de moins en moins nombreux. La plupart des marins ne supportent plus l'état d'alerte permanent entretenu par les insulaires. Un matin de septembre, les Anglais déjouent de justesse une attaque des habitants de l'île. Une violente bataille éclate. Plus de 60 autochtones meurent sous les balles des Britanniques. Cet affrontement meurtrier marque un tournant, selon un matelot qui a embarqué sur le Bounty sous le nom d'Alexander Smith, mais qui se nomme en réalité John Adams.
À partir de ce moment, un sentiment général d'insatisfaction se répandit dans l'équipage, tandis que des différences nettes d'opinion apparaissaient. Certains voulaient abandonner le fort pour retourner à Tahiti, d'autres auraient plutôt fait route vers les Marquises.
Faut-il se résoudre à partir ? Christian finit par faire voter ses hommes pour décider de la conduite à tenir. Le résultat est sans appel. 8 votes pour rester à Toubouaï, contre 16 en faveur d'un retour à Tahiti.
Au grand dam de Christian, qui argumenta en vain sur les dangers que leur ferait courir cette décision. S'installer là-bas, répétait-il, ne leur laissait aucune chance d'échapper aux recherches.
Beaucoup de marins se montrent insensibles aux arguments de Fletcher Christian. Surtout ceux qui n'ont pas pris part activement à la mutinerie. Ils craignent bien moins que lui d'être rattrapés par la justice britannique. Christian s'incline devant la majorité. Les marins embarquent avec eux deux habitants de Toubouaï qui, après avoir fraternisé avec les Anglais, craignent les représailles de leurs congénères.
Tout le monde ! Arrêt à la misaine et au perroquet !
Le Bounty lève l'ancre, abandonnant sur la petite île le fort presque achevé et quelques souvenirs.
À midi, nous faisions voile, laissant Toubouaï bien garni de cochons, de chèvres, de chiens et de chats. Les cochons avaient quadruplé depuis leur débarquement.
Le Bounty fait à nouveau route vers Tahiti. Mais cette fois, Fletcher Christian n'a pas l'intention de s'éterniser. À peine arrivé à destination, le 22 septembre 1789, il laisse débarquer à terre les 16 membres de l'équipage qui ont souhaité revenir sur cette île. Il invite à bord un groupe de Tahitiens et de Tahitiennes. Ceux-ci acceptent, pensant passer un peu de bon temps avec les Anglais le temps d'une soirée. En montant sur le bateau, ces hommes et ces femmes sont très loin d'imaginer dans quoi ils s'engagent. Dans la nuit, Christian donne l'ordre de lever l'ancre et quitte la baie de Matavai en toute discrétion. Il semble que la plupart des Tahitiens et des Tahitiennes, toujours à bord, se retrouvent embarqués dans cette aventure sans l'avoir choisi. Le lendemain, les marins anglais qui avaient débarqué à terre s'étonnent du départ précipité du navire.
Nous fûmes très surpris car M. Christian avait proposé de rester un jour ou deux pour nous donner le temps d'amener à terre les choses dont nous pouvions avoir besoin ou bien celles que nous aurions pu avoir oubliées. Nous avons pensé qu'il craignait une surprise ou qu'il voulait empêcher ses compagnons de changer d'avis.
Les 16 marins anglais restés à Tahiti s'éparpillent dans l'île. Ils savent que tôt ou tard, un bateau de la Royal Navy accostera. Certains redoutent ce moment, d'autres ont la conscience plus tranquille. En attendant ce jour où ils auront à rendre des comptes, ils renouent avec les plaisirs que cette île qu'ils connaissent bien a à leur offrir. L'avenir du Bounty ne les concerne plus. Ils ne le savent pas encore, mais plus personne après eux ne reverra le navire britannique. Celui-ci vient de s'évaporer pour toujours, avec à son bord 9 Anglais, 12 Tahitiennes et 6 Polynésiens, certains de Toubouaï, d'autres de Tahiti. Fletcher Christian a en tête une île sur laquelle établir avec ce petit groupe hétéroclite une communauté autonome et durable, à l'écart du reste du monde. Mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Après avoir quitté Tahiti, le Bounty met le cap vers l'est. En se remémorant les récits de voyage qu'il avait lus, Christian s'est souvenu d'une petite île découverte une vingtaine d'années auparavant par le capitaine britannique Philip Carteret. L'île avait reçu le nom du matelot qui avait été le premier à l'apercevoir, Pitcairn. aucun marin n'y avait mis le pied en raison de la forte houle. Carteret s'était contenté d'en noter la position. Lorsque le Bounty, après plus d'un mois de navigation, atteint le point indiqué par l'explorateur sur la carte, l'horizon est vide. Pas la moindre terre émergée en vue. Christian ordonne de sillonner la zone. Après plusieurs semaines de recherche, le 15 janvier 1790, les marins aperçoivent enfin la fantomatique Pitcairn.
Parti bord avant !
C'est sûrement ça, lieutenant. Il n'y a aucune autre terre marquée dans les parages.
Oui, c'est vrai. C'est forcément Pitcairn. Elle est mal indiquée.
Le capitaine Carteret avait commis une erreur de près de 300 km en positionnant l'île sur la carte. Une aubaine pour les marins en cavale.
Donc, elle est mal indiquée sur toutes les cartes officielles de la marine britannique. Regardez, Pitcairn est noté ici à 175 milles à l'est de sa position exacte. Et on ne peut la trouver que par accident. Comme nous l'avons fait.
Cette île mystérieuse, située à 2200 km de Tahiti, au beau milieu du Pacifique, constitue une cachette encore plus introuvable que les marins ne pouvaient l'espérer. Reste à savoir ce que dissimule l'épaisse végétation qui recouvre cette petite terre volcanique. Pour l'atteindre, Christian et ses hommes doivent affronter en chaloupe une forte houle. Après bien des difficultés, ils parviennent enfin à débarquer dans l'unique petite crique de Pitcairn. Prudemment, ils s'aventurent dans les terres. Au fil de leur exploration, les marins vont d'heureuses découvertes en bonne surprise.
Cette terre répondait parfaitement à nos souhaits. On y trouvait de l'eau en abondance, du bois, un sol riche et quelques fruits.
Cette île montagneuse d'une superficie de 5 km carrés et dont le sommet culmine à 330 mètres présente un autre avantage pour les fugitifs.
Son relief était d'accès difficile par quelques cols étroits qu'une poignée d'hommes suffirait à défendre contre une armée. De surcroît, il s'y trouvait quelques grottes où le cas échéant se réfugiait pour échapper aux poursuites.
En s'aventurant dans l'île, les marins découvrent quelques restes d'habitations et des sculptures dressées au sommet d'une falaise. Cette terre a déjà été habitée. Mais manifestement, ses occupants l'ont abandonnée depuis longtemps. Tous les mutins s'accordent pour faire de cette île redevenue déserte leur Eldorado, le petit paradis sur lequel ils vont pouvoir vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Après avoir débarqué à terre tout ce qui pouvait leur être utile à bord du Bounty et récupéré une partie des matériaux qui le constituaient, les marins se demandent quel sort réserver à leur bateau. Sa présence au large pourrait attirer l'attention d'un navire qui passerait dans les parages. Christian et la majorité de ses acolytes pensent qu'il faudrait laisser volontairement s'échouer le Bounty sur la côte pour en faire une réserve de matériaux. Mais l'un des matelots, Matthew Quintal, prend une initiative plus radicale. Il met le feu au navire. Le vaisseau flambe jusqu'au ras de l'eau, puis dérive et se disloque sur les rochers. Le Bounty n'existe plus. En commettant cet acte, une semaine seulement après leur arrivée sur Pitcairn, les mutins se condamnent, eux et les Polynésiens qui les accompagnent, à vivre sur cette île comme d'éternels naufragés. Personne ne sait où ils se trouvent et ils n'ont plus aucun moyen de regagner la civilisation. Les travaux d'installation commencent. Les voiles du Bounty servent de tente, le temps de construire les maisons. On prend soin de bâtir des habitations basses, dissimulées derrière un épais rideau d'arbres, de sorte qu'elles ne puissent être aperçues depuis la mer.
On détermina un espace où établir le village, et le reste de l'île fut divisé en parcelles égales, mais seulement entre les marins.
L'ancien assistant botaniste, William Brown, se charge de mesurer la surface des terres arables. La vingtaine d'hectares suffisamment plat pour être cultivé est divisée en 9 parcelles égales. Comme il est de coutume chez les marins, chacun tire sa part au sort.
Les Noirs, qui étaient seulement des amis, ne furent pas admis aux mêmes privilèges.
Le terme « ami » n'a manifestement pas la même signification qu'aujourd'hui. Cette société naissante est à l'image des mentalités européennes de l'époque. Les Anglais n'imaginent pas une seule seconde que les Polynésiens, et encore moins les Polynésiennes qu'ils ont embarqués, pour la plupart sans leur consentement, puissent bénéficier des mêmes droits qu'eux et posséder leur propre lopin de terre à cultiver.
Obligés de se louer aux autres pour avoir de quoi vivre, les Polynésiens devinrent, au fil du temps, des esclaves. Pourtant, dans un premier temps, ceux-ci ne manifestèrent aucun mécontentement et même participèrent de bon cœur aux travaux de mise en culture du sol.
Il n'existe aucun journal de bord pour nous donner le point de vue des Polynésiens. On peut imaginer que leur récit aurait été sensiblement différent. Les Anglais se répartissent les femmes comme ils se sont partagés les terres. Chaque marin se met en couple avec une Tahitienne. Il reste 3 femmes pour les 6 Polynésiens. L'une d'elles devient l'épouse de Talalu, un Tahitien de rang plus élevé. Les 5 autres hommes devront s'arranger avec les 2 Tahitiennes restantes. Les femmes n'ont pas voix au chapitre. Sans en avoir conscience, les mutins sont en train de semer les graines de leur propre destruction. Mais pour l'instant, personne ne conteste l'ordre social en train de se mettre en place. Une vie laborieuse, mais étonnamment paisible, commence.
Les mutins trouvèrent leur sort acceptable et leur vie se révéla bien plus confortable que ce qu'ils avaient pu envisager dans les plus optimistes de leurs rêves. Pitcairn connut ainsi 2 ans de prospérité et de paix.
Selon ce récit, établi à partir du témoignage du matelot John Adams, tout semble très bien se passer sur Pitcairn, en tout cas au début. Mais le sort des marins sur cette île isolée est-il vraiment plus enviable que celui de leurs 16 compagnons qui ont choisi de rester à Tahiti? Allons voir ce qu'ils sont devenus. Ils se sont dispersés dans les différents districts de l'île. Beaucoup n'ont pas tardé à se marier avec des Tahitiennes. L'aspirant George Stewart a épousé la sœur d'un roi local. La plupart des marins ont su s'intégrer et se faire accepter par les insulaires. Pour 2 d'entre eux seulement, les choses ont mal tourné. Le maître d'armes James Churchill, après avoir perpétré plusieurs crimes envers des autochtones, s'est violemment battu avec le matelot Matthew Thompson, qui a fini par le tuer. Thompson a ensuite été assassiné par un ami tahitien de Churchill qui voulait le venger. Les autres marins coulent des jours plus paisibles, cultivant leur jardin, recueillant dans leur carnet les mots de la langue locale, se faisant tatouer le corps selon la coutume de l'île. Mais au bout de 18 mois, les marins du Bounty Assagi sont rattrapés par leur passé. Le 23 mars 1791, un gigantesque vaisseau jette l'ancre dans la baie de Matavai. C'est la Pandora, le navire de guerre envoyé 5 mois plus tôt par la Royal Navy à la poursuite des mutinés du Bounty. Je vous avais raconté dans un précédent épisode comment le capitaine Bligh était parvenu à regagner l'Angleterre. L'amirauté, après avoir entendu son récit, avait déclenché les recherches afin de ramener en Angleterre les marins hors la loi pour les juger. En voyant arriver la Pandora, les hommes du Bounty qui n'avaient pas pris part à la mutinerie, comme Coleman ou McIntosh, se présentent spontanément, pensant prouver par ce geste leur bonne foi. Les autres tentent de fuir, mais ils sont tous rattrapés. Les 14 anciens marins du Bounty embarquent sur la Pandora, tous mis au fer, sans exception. Ils sont entassés dans une cellule exiguë que des amateurs de mythologie grecque surnomment la Pandora Box, la boîte de Pandore. Serrés les uns contre les autres, les prisonniers reçoivent leur repas par une petite ouverture sur le toit.
Cette boîte avait 3,60 m de long et 5,40 m de large. Personne n'était autorisé à nous adresser la parole, sauf le maître d'armes, pour nous passer la nourriture. Par temps calme, la chaleur de ce lieu était telle que notre sueur coulait en ruisselets jusqu'au dallos, ce qui fit rapidement venir les asticots. Les hamacs, déjà sales lorsqu'ils furent distribués, attiraient une vermine dont nous ne pouvions nous débarrasser, n'ayant ressource que de dormir sur le plancher.
le voyage s'annonce long et éprouvant. Les prisonniers n'imaginent pas à quel point. Pour commencer, la Pandora part à la recherche des 9 mutins manquants. Le navire visite un grand nombre d'îles, mais Fletcher Christian et ses complices demeurent introuvables. Après 3 mois de recherches infructueuses, le 29 août 1791, alors que le bateau s'apprête à franchir la grande barrière de corail, il est poussé par un violent coup de vent sur les récifs. La coque est endommagée, le navire prend l'eau. Après plusieurs heures de lutte pour tenter de rétablir la situation, il faut se rendre à l'évidence. La Pandora est en train de sombrer. Son capitaine, le commandant Edwards, donne l'ordre d'abandonner le navire, mais il refuse de libérer les prisonniers. Ceux-ci supplient qu'on leur donne une chance de sauver leur vie. Le capitaine de la Pandora se montre inflexible, comme le racontera l'un de ses lieutenants.
Au lieu de les écouter, le commandant fit placer 2 sentinelles supplémentaires sur le toit de la maison ronde et leur donna consigne d'abattre le premier qui essaierait de se libérer de ses fers. Puisque les prisonniers n'entrevoyaient plus la moindre possibilité d'échapper au sort qui les guettait, ils se mirent à prier et se préparèrent à affronter leur destin.
Il faut attendre que le navire se couche sur le flanc pour que l'un des membres de l'équipage de la Pandora, désobéissant aux ordres du commandant, déboulonne une écoutille afin de laisser aux prisonniers une chance de s'échapper. La plupart parviennent à se libérer de leurs fers de justesse, mais 4 d'entre eux, Stewart, Summer, Skinner et Elbrandt, meurent noyés, les mains encore entravées par leurs menottes. Les 10 prisonniers rescapés, surveillés de près par les hommes de la Pandora, sont enchaînés et conduits en canot jusqu'à la colonie hollandaise de Timor. Dans leur minuscule embarcation, ils sont confrontés à la faim, à la soif et aux intempéries. Ils suivent le même chemin, dans les mêmes conditions, que le capitaine Bligh, 2 ans plus tôt. Après avoir survécu à cette épreuve, ils sont rapatriés en Angleterre. Le 12 septembre 1792 s'ouvre le procès en cour martiale des 10 anciens marins du Bounty. Les juges tentent d'établir les responsabilités de chacun. Après 6 jours d'un procès intense pour lequel toute la Grande-Bretagne se passionne, la cour rend son verdict. 4 marins sont acquittés. Parmi eux, Coleman, Norman et McIntosh, qui avaient été retenus de force par Fletcher Christian sur le Bounty après la mutinerie. Les 6 autres sont condamnés à mort, mais l'opinion publique trouve le jugement trop sévère pour certains d'entre eux, ce qui conduit le roi George III à gracier 3 des condamnés. Heywood, Morrison et Musprait échappent ainsi à la mort in extremis. Pour les 3 autres, la peine sera bien exécutée. Le 28 octobre 1792, Millward, Burkett et Ellison, un matelot qui avait seulement 16 ans au moment de la mutinerie, sont pendus à la vergue d'un bateau dans le port de Portsmouth. Ces 3 mutinés payent pour tous les autres. Peut-être se demandent-ils, au moment où on leur passe la corde au cou, ce que devient le principal responsable de la mutinerie du Bounty, Fletcher Christian. Peut-être regrettent-ils de ne pas l'avoir suivi jusqu'au bout. Où serait-il aujourd'hui s'ils avaient accepté d'embarquer avec lui? Il serait sur Pitcairn. Probablement encore en vie, mais peut-être plus pour très longtemps. Aux antipodes de l'Angleterre, sur la petite île volcanique, la situation des derniers fugitifs est sur le point de virer à la tragédie. Sur son île déserte, perdue dans le Pacifique, la petite communauté fondée par les mutins du Bounty s'est agrandie. Personne n'a accosté sur ce morceau de terre isolé de tout, mais plusieurs naissances ont été célébrées. La compagne de Fletcher Christian, Mahuatua, rebaptisée Isabella, a mis au monde un petit Tuesday October Christian. Bien que le chef des mutins traverse quelques périodes de déprime et d'introspection, il parvient à maintenir son autorité sur le groupe. Pour tout le monde, il reste Monsieur Christian. On surveille attentivement ses humeurs et on les craint. Les cultures poussent bien, les cochons et les poulets débarqués sur l'île prospèrent. Tout le monde mange à sa faim, mais cela ne suffit pas à garantir le bonheur de tous. John Williams, qui joue sur Pitcairn le rôle indispensable de forgeron, ne se satisfait plus de son sort.
Un mois après leur installation sur l'île, il avait eu le malheur de perdre son épouse, tombée d'une falaise où elle récoltait des œufs d'oiseaux. Après quelques mois de frustration, il menaça de quitter l'île sur une embarcation de la Bounty si on ne lui fournissait pas une autre femme.
Mais comment accéder à une telle requête alors que les couples sont formés et qu'il y a moins de femmes que d'hommes sur Pitcairn? Dans un premier temps, la demande de Williams est jugée déraisonnable. Mais devant l'insistance du matelot veuf, Fletcher Christian cède au bout de quelques mois.
En tant que forgeron, il était indispensable à la communauté. Aussi, plutôt que de risquer son départ, on contraignit un des Noirs à céder sa femme à Williams.
Une fois de plus, cette décision est prise sans consulter la principale intéressée, sans se soucier non plus de l'avis des hommes polynésiens. Ceux-ci se sentent outragés par cette nouvelle injustice. Talalou, l'homme auquel on vient d'arracher la compagne, commence à fomenter avec deux de ses compagnons d'infortune un projet de révolte contre les marins anglais. Quelques femmes s'en aperçoivent, mais plutôt que de soutenir les Polynésiens, elles préfèrent informer leurs conjoints britanniques du complot qui se trame dans leur dos.
Avec beaucoup d'ingéniosité, elles nous en avertirent en psalmodiant une chanson dont les paroles étaient « Pourquoi l'homme noir aiguise-t-il sa hache ? C'est pour tuer l'homme blanc. »
Christiane saisit le message et décide d'intervenir immédiatement. Armé d'un pistolet, il part demander des comptes à Talalou et l'un de ses complices, Ohou, un toutboyen. Il tire en l'air pour les intimider. Effrayés, les deux hommes s'enfuient dans la forêt. Les quatre autres Polynésiens, redoutant la colère des Anglais, s'empressent de se désolidariser des deux fugitifs.
En voyant leur plan éventé, les autres Noirs demandèrent pardon et promirent de supprimer eux-mêmes leurs complices en fuite. C'est ce qu'ils firent, en usant d'une traîtrise particulièrement odieuse. Ohou fut assassiné par son propre neveu. Quant à Talalou, il mourut des mains de son meilleur ami avec la complicité de sa propre épouse.
Après ce dernier accès de violence, le calme revient sur Pitcairn. Mais les Polynésiens finissent par regretter amèrement d'avoir trahi les leurs. Pendant des mois, ils subissent injustice et mauvais traitements. Ils sont régulièrement fouettés, pendus par des fers, on verse du sel dans leurs plaies. Quintal et McCoy se montrent les plus tyranniques et les plus cruels à leur égard. Les rancunes s'accumulent. Chaque nouveau châtiment, chaque nouvelle humiliation attise un peu plus le désir de vengeance, jusqu'à ce qu'un jour, la révolte éclate. Les quatre Polynésiens décident de se libérer de leurs oppresseurs. Ils s'emparent d'armes à feu et tirent sur le premier Anglais qu'ils aperçoivent. C'est John Williams, le forgeron, qui a le malheur de croiser leur route le premier.
Martin, qui ne se trouvait pas très loin, entendit le coup de feu et s'exclama « Bien joué ! Quel festin on va s'offrir ce soir !» Il pensait qu'un cochon venait d'être tiré.
Isaac Martin, le charpentier, est loin de se douter que son ami Williams vient d'être assassiné et que lui-même ne connaîtra plus aucun festin, ni plus aucun soir. 16 heures sont comptées. Les quatre hommes en colère se dirigent chez Fletcher Christian. Celui-ci est en train de travailler dans sa plantation d'igname lorsqu'il reçoit une balle dans le dos sans même comprendre ce qui se passe. Il s'effondre au sol dans un long gémissement après avoir prononcé ces quelques mots.
« Oh mon Dieu !»
Le chef des révoltés du Bounty meurt emporté par une colère qu'il n'a pas vue monter. L'ancien mutin est à son tour victime d'une révolte provoquée par les mauvais traitements et les injustices qu'il a laissé s'installer au sein de la petite communauté qu'il dirigeait. Le même jour, Mills, le second canonnier, Martin, le charpentier, puis Brown, l'aide botaniste, sont assassinés les uns après les autres. Quintal et McCoy parviennent à s'enfuir et partent se cacher dans un recoin de l'île. Adams, après avoir été blessé par une balle à la gorge, parvient à apitoyer les Polynésiens et finit par les convaincre de lui laisser la vie sauve. On le mène dans la maison de Christiane pour le soigner tout en le tenant à l'œil.
Young, grand favori des femmes, avait été caché par elle le jour du massacre. lui aussi fut conduit dans la maison de Christiane.
Des 9 Anglais qui avaient débarqué sur l'île, 4 seulement sont encore en vie. 2 d'entre eux se terrent dans la forêt.
Pour les Noirs qui désormais régnaient en maître sur Pitcairn, ce fut le jour de l'émancipation. Et pour les Blancs, celui de l'humiliation et du châtiment. Pendant une semaine, le village vécut dans une relative tranquillité. Mais vint le moment où les Polynésiens commencèrent à se disputer les femmes dont les marins avaient été tués.
Les Polynésiens commencent à s'entretuer. Et selon Adams, ce sont les femmes qui finissent le travail.
Les veuves des Blancs assassinés éprouvaient un ressentiment tel que, mues par leur désir de vengeance, elles se concertèrent pour assassiner les 2 hommes de couleur toujours en vie.
D'autres témoignages prétendent que c'est Young qui exécute le dernier Polynésien. Quoi qu'il en soit, en l'espace de quelques jours, ce déferlement de violence a emporté la plupart des hommes de l'île. En octobre 1793, soit un peu moins de 4 ans après l'arrivée sur Pitcairn, il ne reste plus que 4 hommes, les derniers Anglais, 11 femmes et quelques enfants. Bien que devenus majoritaires, les femmes ne sont pas mieux traitées pour autant. La petite communauté est maintenant divisée en 4 maisonnées polygames. Adam se vit avec 4 femmes et leurs enfants, Young avec 3, tandis que McCoy et Quintal en ont 2 chacun. Mais selon certains récits, les femmes se plaignent de devoir changer trop souvent de maison. Il semble qu'on se les échange comme de vulgaires biens. Young, qui s'est mis à tenir un journal, écrit à leur sujet.
Depuis le massacre, leur désir pour la plupart est d'obtenir une embarcation qui leur permette de quitter l'île.
Nous savons peu de choses sur les femmes de Pitcairn, mais il est établi que la Tahitienne la plus décidée à quitter l'île s'appelle Teutea Tuanoa. Son surnom est Jenny. Elle a d'abord été l'épouse d'Isaac Martin. Elle est la seule femme qui n'aura jamais d'enfant sur l'île. Jenny parvient à convaincre d'autres femmes de la suivre dans son projet de quitter Pitcairn pour retourner à Tahiti. Elle construit une petite embarcation dans ce but.
Pour fournir le bordage et les clous nécessaires, Jenny arracha les planches de sa propre maison et essaya, heureusement sans succès, de persuader les autres femmes de suivre son exemple.
Lorsque vient le jour du départ, l'odyssée de Jenny et ses amis tourne court. À peine mise à l'eau, la petite embarcation de fortune chavire. Ses passagères parviennent à regagner le rivage. Puisqu'elles sont condamnées à vivre avec les hommes, elles s'organisent pour leur tenir tête, se soutiennent mutuellement et acquièrent un certain pouvoir. Les hommes commencent à s'en méfier. Un équilibre relatif s'installe. Les femmes semblent jouer un rôle important dans l'apaisement de la petite communauté. Elles prennent en charge collectivement l'éducation des enfants. Les années passent sans incident majeur, jusqu'à ce qu'en avril 1798, McCoy parvienne à produire de l'eau de vie en distillant une plante de l'île. L'alcool ne tarde pas à faire des ravages. Les beuveries s'enchaînent. Un jour, McCoy, complètement ivre, se jette du haut d'une falaise une pierre attachée autour du cou. Après ce nouveau drame, les autres hommes jurent de renoncer à l'alcool. Quintal ne tient pas cette promesse. Il devient une menace pour le groupe. Un jour, l'une de ses femmes meurt, elle aussi, en tombant d'une falaise. Rendu maussade par cette disparition, Quintal s'emporte de plus en plus violemment contre Young et Adams. Un soir, il tente même d'assassiner ses anciens compagnons. Ces derniers ne lui laisseront pas la possibilité de recommencer. Il lui règle définitivement son compte à grands coups de hache. L'année suivante, Young meurt d'une crise d'asthme. Nous sommes en 1800. John Adams est le dernier survivant des 15 hommes arrivés sur Pitcairn une dizaine d'années plus tôt. Les femmes ont beaucoup mieux résisté. Elles sont encore au nombre de 10. À leur côté grandissent une vingtaine d'enfants nés sur l'île. Les plus âgés ont 9 ans. Adams souhaite une vie meilleure pour cette nouvelle génération. Après toutes les violences qui ont endeuillé la petite communauté, il veut expier ses fautes, se repentir. En s'aidant de la Bible du Bounty, lui qui n'avait jamais été un fervent pratiquant jusque-là, instaure un service religieux le dimanche. s'attache à convertir les femmes et enseigne aux enfants le christianisme en même temps qu'il leur apprend à écrire et à lire. Plusieurs longues années paisibles et sereines s'écoulent jusqu'à ce qu'en 1814, deux navires de guerre britanniques arrivent par hasard sur Pitcairn. Sur le rivage, les marins sont accueillis par deux jeunes hommes. L'un se nomme Tuesday October Christian, l'autre George Young. Ce sont les fils respectifs de Fletcher Christian et Edward Young. Les matelots découvrent stupéfaits ces jeunes métis parlant parfaitement l'anglais sur cette petite île perdue qui compte 46 habitants. Quand les capitaines britanniques rencontrent le patriarche des lieux, John Adams, ils comprennent qu'ils ont devant eux le dernier mutin encore en fuite du Bounty. 25 ans après la mutinerie, ils ne jugent pas nécessaire de mettre Adams au fer pour le traîner devant la justice en Angleterre. Lorsque l'amirauté reçoit le rapport des capitaines, elle aussi décide de laisser Adams tranquille sur son île. Ce dernier ne la quittera jamais. John Adams meurt à Pitcairn en 1829, à l'âge de 61 ans, entouré de sa petite communauté. Deux siècles plus tard, Pitcairn est toujours habité. De génération en génération, la petite société fondée par les révoltés du Bounty s'y est maintenue à l'écart du monde et de ses lois. En 2004, un retentissant procès a défrayé la chronique. Ce que l'on a appelé l'affaire Pitcairn a révélé comment l'isolement de cette île et son statut singulier avaient permis que s'y déroulent en toute impunité, pendant plusieurs décennies, des viols et des agressions sexuelles généralisées infligées aux filles, parfois très jeunes. Plusieurs hommes de l'île ont été condamnés et emprisonnés pour viols sur mineurs, dont le maire de l'époque, Steve Christian, descendant direct du chef des mutins. Actuellement, Pitcairn est encore peuplé par une petite quarantaine de personnes. Toutes descendent des marins anglais débarqués sur l'île en 1790. Aujourd'hui, Pitcairn est la seule terre britannique de tout le Pacifique. L'Angleterre doit cette unique possession aux mutins qui ont défié son autorité il y a plus de deux siècles. In Extremis, histoire de survie, est un podcast original de France Inter.